carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le sculpteur Pierre-Édouard a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2008 et a été reçu la semaine dernière, le 10 mars 2010, au sein de l'Académie, sous la coupole de l'Institut de France. Né en 1959, à Paris, capable d'exercer ses talents en peinture, en dessin, en gravure, il se consacre principalement depuis les années 90 à la sculpture. Dans un grand atelier à Malakoff, il a choisi la cire qu'il travaille à la main pour créer des sculptures qui seront, ou non, fondues en bronze. Un torse, une tête penchée, une épaule, une tête avec bras. Le corps humain fragmenté est offert au regard. Depuis plusieurs années, Pierre-Édouard, qui aime travailler par série, est habité par le thème de l'Ève, un thème ancestral dont il est venu nous parler aujourd'hui à Canal Académie. Ève en 1996, c'est une de ses sculptures, torse d'Ève avec épaule, torse d'Ève avec bras, tête d'Ève. Et puis il y a des gravures, des pastels, des fusains et même des toiles. Autant de recherches de déclinaisons qui nourrissent son œuvre. Pierre-Édouard, que représente ce thème à vos yeux ?
Bah écoutez, en fait, il s'appelle Ève. Moi, j'aurais bien pu ne pas lui donner de titre du tout, parce que j'aime pas les titres, ça ne me passionne pas. Je l'ai appelé Ève tout bêtement parce qu'il y a une sculpture romane qui est un petit peu à l'origine de ça. C'est l'Ève d'Autun de Gilibertus. Elle n'a comme point commun avec mon thème que le fait, si vous voulez, qu'elle est... C'est l'horizontalité qui m'intéresse là-dedans. L'Ève d'Autun est une des rares sculptures tout à fait horizontales. Et alors, elle n'a comme point d'appui que les genoux. Et moi, dans ce thème que je travaille...
On la voit de profil. Hein,
Elle est aussi qu'en appui sur les genoux. Donc, si vous voulez, moi, je mets ce titre d'Ève, qui ne me fait ni chaud ni froid, uniquement à cause de Gilibertus.
C'est un hommage ? Non ?
C'est pour mettre un titre, c'est parce que je ne sais pas quoi dire comme titre.
D'accord.
Voilà.
Il n'y a pas de rapport particulier avec la thématique
chrétienne
ou du tout ?
Aucun.
Aucun.
Aucun. J'aime beaucoup la Rome, mais il ne m'a jamais vraiment habité non plus. Ce n'est pas du tout une chose que je veux retrouver. Et il y a une autre figure. Alors, de temps en temps, je l'appelle Ève et puis de temps en temps, je l'appelle Nout pour changer dans mes titres parce que... Et d'ailleurs, là, ça m'amuse plus quand je l'appelle Nout, d'ailleurs. Alors, Nout, c'est la déesse égyptienne. Vous savez, c'est la voûte céleste qui, dans les tombeaux, est à la limite du mur et du plafond. Et elle crée comme une sorte d'arc de cercle au plafond. Mmh. Et cette déesse, vous savez, sous elle, il y a le monde. D'ailleurs, les Égyptiens, il y a des fresques où ils dessinent le monde avec des petits personnages, des animaux, etc. Et il y a cette sorte de voûte, de personnage en voûte, qui abrite le monde. Et j'aime beaucoup la métaphore de cette sculpture. Et là, c'est quelque part plus près de ce que je recherche avec mon thème que l'Ève d'Autun, qui finalement n'a pour moi que les genoux et l'horizontalité. Bien que j'adore...
Et déjà l'arche aussi, un peu de son corps.
L'arche. Mais l'arche est plus sensible chez nous. Et si vous voulez, cette idée d'une forme comme ça, qui est une arche qui abrite le monde, qui en plus... Là, je vous parle d'un point de vue purement métaphorique, hein, parce que c'est cette sorte de féminité comme ça, de forme féminine, de forme de déesse qui abrite le monde. Il y a certainement quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Mais tous ces titres, toutes ces choses, en fait, j'en tiens pas du tout compte.
Comment vous l'avez découverte, cette Ève d'Autun ? On va y revenir un petit peu.
Je la connais depuis toujours. Mmh. Et puis, je pense que ce qui m'a rapproché d'elle, c'est le fait aussi que dans tous les dessins que j'ai faits, dans les peintures que j'ai faits, j'ai beaucoup traité une sorte de personnage qui était à quatre pattes sur les mains, une sorte d'homme à terre.
C'est vrai que
la position horizontale du corps humain est quelque chose qui m'a toujours passionné.
Et donc, je
l'ai certainement retrouvée dans cette thématique. Elle m'a sans doute jamais quittée. Bien qu'avant, j'ai jamais pensé ni à Ève ni à Nout quand je faisais les tableaux d'Homme à terre.
Alors, comment s'est imposé ce thème par rapport à L'Homme à terre, qui est une de la série antérieure
Je crois qu'on a pratiquement qu'un thème. Je crois que dans une vie, on a très très peu d'idées. Je pense que n'importe quel artiste a très très peu d'idées. Que ce qu'on appelle avoir une idée, c'est quelque chose de rarissime, qu'il y a plein d'artistes qui n'ont jamais d'idée. Il y a plein de gens qui n'ont jamais eu d'idée. Une idée, ça veut dire l'idée créatrice, c'est... Il faut déjà s'estimer très heureux si on en a une, quoi. Je pense que la plupart des artistes tournent autour de la même. Je veux dire, Rothko, c'est la même d'un bout à l'autre. Giacometti, c'est la même. C'est une idée. Qui peut même pas s'appeler idée, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus qu'une idée. C'est une sorte de vision.
Oui, vous parlez de vision.
Oui, c'est une sorte de vision. C'est
vision
une sorte
créatrice.
De... C'est beaucoup plus qu'une idée. C'est quelque chose qui s'impose comme la manière dont on aborde le monde ou dont on aborde l'existence. Et je sais que pour moi, cette chose a toujours été là pour moi, cette sorte d'horizontalité. Et puis, cette sorte d'apesanteur, voilà. Parce que cette histoire d'apesanteur compte beaucoup pour moi.
Alors, comment vous appréhendez cette forme horizontale?
Parce que si vous voulez, pour moi, cette histoire d'Ève, pour moi, ce n'est pas une femme. Alors, vous voyez, j'aimerais bien, là, j'ai le projet de faire une sorte de livre de gravure sur ce thème. Et pour moi, ce livre de gravure, ce serait, je ne sais pas si vous voyez, à l'époque de Melville, toutes les petites gravures qu'il y a, qui représente les chasseurs de baleines.
Oui, oui, oui.
Vous voyez ?
Oui, oui.
Vous avez, par exemple, dans Melville, très souvent dans ses livres, il n'y a pas que dans Moby Dick, il parle de la baleine et il parle de la monumentalité de la baleine. Alors, c'est symbolique, c'est métaphorique, évidemment, comme Moby Dick. Et la baleine, elle est... Alors, il explique que la baleine n'a pas de nez et que l'absence du nez chez la baleine est quelque chose qui la rend tout à fait monumentale. Et la réflexion qu'il fait là... est une réflexion non pas d'écrivain, mais de sculpteur. Parce que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la construction d'une baleine, elle est fondamentalement monumentale. Outre la grandeur de l'animal, on le ferait tout petit, cet animal, il est monumental en soi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'essence de monumentalité. Comme les animaux préhistoriques, comme beaucoup de grands animaux comme ça, ils ont la monumentalité inscrite en eux. Et alors pour moi, si vous voulez, mon histoire d'Ève... C'est une baleine, c'est-à-dire que je l'aperçois en tant que baleine. C'est pour ça que je voudrais faire ce petit livre de gravure, c'est-à-dire des choses toutes petites qui vont raconter quelque chose de monumental.
Parce que vos gravures, souvent, sont de dimensions toutes petites.
Elles sont petites, mais elles tournent autour de ce thème-là. Et donc, c'est une femme, mais pour moi, c'est aussi une baleine, c'est-à-dire qu'elle est porteuse et de toute cette métaphore, par exemple, que Melville met autour de la baleine et de cette sorte qu'elle, qui est féminine aussi. Cette baleine, et de cette énormité, de ce gigantisme qu'on a du mal à conceptualiser, qu'on n'arrive jamais à conceptualiser, mais qui en même temps est fondamentalement monumental. Et vous avez dans cette baleine aussi l'horizontalité, justement. Et elle est dans l'eau, on les voit dans l'eau, les baleines. Elles sont en... Il y a cette apesanteur aussi. Il y a cette chose énorme comme ça qui est... Enfin, vous voyez...
En suspens.
Voilà, en suspens complet.
Immatériel.
Oui.
Dans vos sculptures d'Ève, que vous déclinez aussi par fragments, tête ou bien tête et bras ou épaules, ou... vous n'imaginez pas une Ève dans sa totalité.
Si,
si,
je veux bien.
Vous voulez bien?
Je veux bien. Si vous voulez, moi je n'ai de parti ni pour le fragment, ni pour la totalité. J'ai simplement le besoin, je ne sais pas comment vous dire, que ça fonctionne. Quoi. Alors... Si j'arrive à faire une sculpture avec une tête, un corps, des jambes entiers, très bien, ce sera très bienvenu. Si ça ne fonctionne pas avec une tête, ben ça ne fonctionnera pas avec une tête. Si ça ne fonctionne pas avec des bras, j'enlèverai les bras. Je veux dire que, de toute manière, moi, je ne l'approche pas...
Par morceaux, c'est pas
non,
ça,
je ne l'approche
justement.
Pas par le corps. Mmh, mmh. C'est-à-dire je ne l'approche pas par le modèle de la représentation, si vous voulez. Le signifiant corps, pour moi... est très, très mince. C'est une chose qui m'importe vraiment très peu.
Alors, comment vous l'appréhendez?
Ben, je l'appréhende abstraitement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours abordé tout de cette manière. C'est pour ça que je vous parlais de la baleine tout à l'heure. Ça pourrait être autre chose qu'une baleine. Je l'aborde comme une forme monumentale qui finalement finit par être une femme. Mais je l'aborde, quand je commence la sculpture, si vous voulez, je la commence par un morceau. Et ce morceau, j'essaye de le prolonger dans l'espace. Et... je vois jusqu'où ça va aller. Si ça va jusqu'à un personnage entier et que je garde là une cohérence intérieure et abstraite dans sa totalité, c'est très bien. S'il y a pas, il manquera des morceaux. Alors évidemment, ça part tout de même d'une vision d'un corps. En plus, j'ai un modèle. Mais en même temps, si vous voulez, ce n'est pas une... Le corps, pour moi, le corps humain, c'est-à-dire mon sujet, finalement, n'est pas une chose... auquel je suis sensible et que je vais essayer de retranscrire, c'est quelque chose qui va plus être pour moi comme un dictionnaire des formes, un dictionnaire avec lequel on écrit, quand on est écrivain, on ouvre un dictionnaire, on cherche un mot. Et pour moi, une épaule, un bras, un je ne sais quoi, vont être des mots que je vais aller chercher dans la nature pour m'aider à construire ma forme. Mais c'est... Alors évidemment, c'est important les mots, évidemment. Mais ce ne sera pas une chose qui existe en soi et auparavant et à partir de laquelle je vais construire mon propos. Ce sera quelque chose qui va m'aider en tant que dictionnaire de forme.
Vous travaillez la cire.
Ouais.
On n'en a pas parlé, mais c'est comme ça que vous modelez vos sculptures. On dit aussi, j'ai lu, Gérard Lanvin l'a dit quand il vous a reçu sous la coupole l'autre jour, que chez vous, sculpture et dessin sont très très proches, sont très liés, que vous dessinez dans l'espace.
Oui, tout à fait.
La cire, je suppose, est vraiment le matériau qui vous
convient
le mieux pour ça.
Oui, la cire, c'est le matériau que je préfère de la sculpture, parce que la cire a une très très grande nervosité. C'est le matériau le plus nerveux, le plus tendu. Et la terre, par exemple, est quelque chose de... C'est formidable, la terre, mais on n'a jamais la tension de la cire dans la terre. On a quelque chose de beaucoup plus compact et, je dirais bêtement, de plus terrien. La terre a quelque chose de terrien, toujours. D'abord parce qu'il y a la masse. Et... Alors que la cire est quelque chose qui peut se travailler en apesanteur. On peut faire avec de la cire ce qu'ont fait les sculpteurs sur métaux des années 50. On peut faire un ferro en cire, on peut faire un César en cire. Tout ce qui a été fait en métal, ça peut être fait en cire. C'est-à-dire que c'est un matériau qui permet la pesanteur. Alors que la terre, ce n'est pas possible.
Alors, dans votre recherche d'Ève, ou sur ces corps féminins, la cire, pourquoi vous avez choisi ça?
À cause de la tension...
Facile.
À cause de la tension qu'il y a dans le
matériau. La nervosité dont vous m'avez parlé.
La nervosité du matériau. Si vous voulez, l'écriture de la cire, il y a des matériaux qui écrivent mou, puis il y a des matériaux qui écrivent nerveux, hein, c'est tout simple. Et la cire est un matériau qui est extrêmement nerveux.
Tout à l'heure, on a parlé un peu des fragments de l'Ève. On n'a que des parties. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour celui qui regarde, qui ne voit qu'une partie de ce corps, ce qui manque ne le choque pas.
J'espère, parce que ce sera bien embêtant.
Ne manque pas.
Si vous voulez,
ce qui ne se voit pas ne manque pas.
Il y a une chose qui est très bizarre avec la sculpture, il faut en dire deux mots parce que c'est important, c'est que depuis bien avant le 19e, si vous voulez, le regard du public sur une sculpture est très lié à quelque chose d'humanoïde. C'est-à-dire qu'on fait, avec une sculpture, le public, enfin, le monde, fait beaucoup moins la différence d'avec la nature. C'est-à-dire que, parce que c'est en trois dimensions, il y a une identification du regardeur à la forme. Et par exemple, quand une sculpture n'a pas de tête, les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'on lui a coupé.
Oui, mais justement, c'est pas qu'on voit.
Je sais, mais en même temps, si, moi j'en ai qui voient ça. Et si vous voulez, pareil pour un bras, il n'y a pas de bras, on lui a coupé. Parce que...
On a l'impression qu'elle sorte de l'espace.
Oui, mais ça, c'est ce que je voudrais. Mais si vous voulez, c'est pour vous dire que... J'en viens là pour vous dire justement que je n'ai jamais eu cette lecture. Parce que moi, je n'ai jamais eu de lecture ni de tête, ni de corps, ni de bras. Donc si vous voulez, pour moi, c'est comme vous dites, c'est l'espace qui se meut, qui devient cette forme. Et il y a tête, il n'y a pas tête, il y a bras, il n'y a pas bras. Ça m'intéresse très peu, ça. Mais c'est vrai qu'une sculpture, après, je me suis aperçu qu'il y a des gens, ils lisent une sculpture, elle n'a pas de tête. Mais moi, je ne l'ai jamais lue, par exemple. Ça ne me vient même pas à l'esprit.
Vous passez d'un support à l'autre, du dessin au pastel. Un thème comme celui-là, c'est un thème qui vous habite depuis plusieurs années, sur lequel vous allez travailler longtemps.
Vous passez d'une série
à l'autre, mais vous disiez tout à l'heure que ça avait quasiment toujours habité votre œuvre, en fait.
Ben, je ne passe pas tellement d'une série à l'autre, parce que finalement, j'ai pile... Non, parce que, si vous voulez, pour moi, j'ai un petit peu le goût du chef-d'œuvre, si vous voulez. J'aspirerais à l'idée du chef-d'œuvre. Alors, comme vous le savez, le chef-d'œuvre, en même temps, c'est complètement stupide. Parce qu'on ne le fait jamais, le chef-d'œuvre. C'est une idée idiote. Et donc, si vous voulez, moi, je sais que je pourrais, si on me laissait travailler tranquille, si je n'ai pas besoin d'exposer ou j'ai besoin de rien, sans doute que je ferais la même sculpture pendant 30, 40 ans, je ne sais pas, jusqu'à ce que je trouve qu'elle est plutôt bien. Et ce serait complètement idiot, d'ailleurs. Parce qu'elle serait, si ça se trouve, pas mieux, en plus. Au bout du compte, elle serait pas mieux. Mais je pense que, justement, il y a une nécessité pour moi d'articuler non pas, moi je ne veux pas faire une série, j'ai jamais, ça ne m'intéresse pas la série, mais si vous voulez, quand j'ai une sculpture qui m'apparaît finie, la première idée que j'ai, c'est je vais la refaire parce que ce que je n'ai pas fait dans celle-là, je le ferai dans celle d'après. C'est-à-dire que la sculpture d'après, c'est comme une correction de la première. C'est un deuxième état pour aller plus loin. C'est le même concept, c'est la même vision. Mais comme j'ai l'impression d'être passé à côté la première fois, je me dis que cette fois-ci, je ne passerai pas à côté. Et puis comme finalement, on passe encore à côté, et c'est normal, on passe toujours à côté. Donc ça me... Si vous voulez, le...
Vous ne craignez pas que certains y voient une répétition ou un enfermement ?
Ah non, ça m'est complètement égal, ça.
C'est la recherche de ce que, là, ce que vous n'avez pas trouvé qui alimente votre désir
de poursuivre. J'ai aucun problème avec ça. Hein? Parce que si vous voulez, non, la répétition est une répétition, comme le nom l'indique, quand on répète quelque chose. Là, pour moi, il ne s'agit pas de répéter, il s'agit d'accéder à quelque chose. C'est très différent. J'ai aucune envie de répéter. J'ai simplement l'impression de ne pas avoir fait ce que je voulais. Le jour où j'aurai plus cette nécessité, alors là, je répéterai. Mais non, moi, je peux le faire. Et c'est drôle, d'ailleurs, parce que ces choses-là, on ne les décide pas. Et puis un jour, tout d'un coup, tout simplement, on ne les fait plus. Mais tant que l'impulsion est là, et tant qu'on a l'impression de ne pas avoir été au bout de cette impulsion, pour moi, il faut le continuer. Moi, je sais que, par exemple, pour l'Ève dont vous parlez, là, je sais pertinemment que là, je suis très loin d'être au bout. Très loin. J'ai l'impression d'être au début, hein, quand même.
Et pourtant, ça fait des années que...
Oui, que ça fait des années, avec... mais je trouve qu'il y a quand même une progression. Il y a une progression, je pense que ça peut continuer. Mais je sens que cette forme me demande encore d'aller beaucoup plus loin. Cette forme-là me le demande.
D'accord.
Ah oui.
Voilà. Donc, Ève a de longs jours devant elle.
Ah, je pense, oui. Je pense.
Dans
Dans
votre œuvre.
Ah oui, oui, oui.
Merci Pierre-Édouard d'être venu nous parler de votre vision d'Ève qui s'est imposée à vous.
C'est malgré moi.
C'est malgré vous.
Oui, c'est malgré moi.
Merci. Retrouvez le sculpteur Pierre-Édouard, membre de l'Académie des Beaux-Arts, dans l'émission En habit vert. Il nous parle de ce qui compte à ses yeux dans sa sculpture. L'horizontalité et l'apesanteur, c'est sur Canal Académie.